première chose qui vient à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, d'abord et avant tout, nous sommes tous des Américains.
I want to tell them that France and I have always been friends of the United States. And this will not change.
Keep listening for the other parts of the series.
That's news.
Whenever action is necessary, I will defend the freedom and security of the American people.
960 TZIM, Cape Girardeau.
From ABC News.
War is my last choice.
D'accord, Bush. Tu veux aller à la guerre? Eh ben, vas-y, mais va avec tes soldats, parce que c'est pas toi qui vas mourir si tu vas pas à la guerre. C'est tes soldats et les Irakiens, et les enfants irakiens. Voilà.
Quand Pierre Bourdieu est mort l'année dernière, j'étais très triste. Et puis là, je sais pas pourquoi, mais de savoir que Lagardère est mort, eh ben, j'ai repris deux fois des nouilles.
Oui, bonjour. Alors, on vient d'apprendre que Jean-Luc Lagardère est mort. Alors, on n'a pas fini de l'apprendre et ça n'échappera à personne, puisqu'il fait la une et les informations à tout va. En tant que grand homme, il méritait tous les égards de la presse qui lui appartenait, de toute façon. Moi, il y a le patron du bistrot en face de chez moi qui est mort. On s'y attendait pas non plus. Enfin, on s'y attendait pas, en tout cas. Mais bon, les médias n'en parleront pas. Hein, puis, de toute façon, on s'en fout. Lui, il rythmait la vie du quartier un petit peu avec ses bonjours, son sourire et... Il y a la tristesse dans le quartier, voilà.
Bonjour, bonsoir. Une information qui risque d'intéresser Daniel Mermet, ses chers auditeurs et auditrices. Le samedi 22 mars, à 12h, aura lieu à Gignac, un village de l'Hérault près de Montpellier, le dévoilement de la plaque de la rue Louise Michel, en remplacement de la rue Adolphe Thiers, le bien prénommé. Ainsi sera honorée une femme exemplaire, courageuse, généreuse. D'abord institutrice laïque, puis combattante de la commune en 1871. Peu avant de mourir en 1905, elle avait écrit « Ce qui est éternel, c'est le progrès, mettant sur l'horizon un idéal nouveau quand il a été atteint celui qui, la veille, semblait utopie. » Exemple à suivre pour déboulonner Thiers et promouvoir Louise Michel. Bonsoir.
Bonsoir, voici mon témoignage et mon appel. J'ai eu un bébé le 22 décembre 90, je venais d'arriver en France. La guerre du Golfe, guerre chirurgicale qui scintillait en vert, commence le 17 janvier. J'ai perdu mon lait, mais ça on tarit, à regarder jusqu'à 1h du matin les infos. Mes larmes coulaient et mon bébé m'arrachait les seins pour en tirer du sang. C'était sans conséquence pour lui, je l'ai mis au biberon. En France, les usines n'ont pas été bombardées. Rémi a 12 ans aujourd'hui et rebelote, reguerre en Irak, avec préparation médiatique requise. Et depuis le début de cette préparation, de la préparation médiatique de ce crime, j'ai des hémorragies, 2 à 3 fois par mois. On réagit comme on peut. Hein. Ce n'est pas pour me faire plaindre que je fais ce témoignage. Les médias sont complices de ce crime. Parce qu'ils ne montrent les gens en Irak, des gens en Irak, que ceux qui ont ils ne montrent pas ceux qui ont la trouille. Ils montrent que les hommes qui fument le narguilé, l'air inconscient et insouciant, ou Saddam Hussein avec ses généraux, ou quelques Irakiens avec des fusils qui courent, qui se préparent à la guerre. Pitié. Pitié pour les femmes, les enfants et les vieillards misérables, qui n'ont pas les moyens de fuir le massacre, parce que tous ceux qui ont les moyens sont déjà partis.
Marcel Mathieu. Ah, nous, Daniel, nous, le petit gars de Géorgie, il est peut-être mort pour les industriels, peut-être, mais il est mort aussi pour mettre fin à la terreur hitlérienne, ou train de déporter à Auschwitz. Il n'est pas mort pour rien, quand même. Daniel.
Mathieu, Marcel. Les enfants des bonnes familles vont au lycée de l'Immaculée Conception. Alors ma bonne mère, qui n'a pas enfanté par l'opération du Saint-Esprit, ma bonne mère immaculée, elle est tachée. puisqu'il n'y a que la Vierge qui a connu l'Immaculée Conception. Mais au fait, toutes les mères de famille sont maculées aussi. Mais mes bonnes dames, vous êtes maculées, vous vous en rendez pas compte. Vous n'avez pas conçu par l'Immaculée Conception. C'est une dame drôle, ça, hein? Mathieu Angers. Je suis d'origine protestante. La Bible familiale était le livre sacré. Je le conservais sans le lire. Un jour, la retraite venue, je mis le nez dans l'Ancien Testament. Quoi? C'était pour ce tissu d'ânerie que mes aïeux et camisères avaient bravé les galères, subi les dragonnettes de ce salaud de Louis XIV? Alors, désemparé, j'ouvrais le Coran. Illisible! Une litanie d'affirmations sans aucune authenticité. Une lecture insupportable. Mais mes frères humains de toutes couleurs, aucun livre n'est sacré. Lisez Montaigne, Diderot, Voltaire. Aimez la vie, la vérité. Fuyez toutes ces croyances qui ne causent que persécution, massacre et haine. Vivez libres en pensée.
Montaigne, Diderot, dans la bouche de Marcel Mathieu. Éloge de la vie et de la vérité. Pourquoi trois messages à la suite? Parce qu'on va passer cette heure avec Marcel Mathieu. On va retrouver Marcel Mathieu, cet auditeur, 92 ans, comme il dit à chaque fois, enfin depuis un an, puis depuis qu'on le connaît régulièrement, il laisse des messages. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de se remonter le moral à la veille de cette nouvelle régression, de cette déprime qui va commencer, cette nouvelle honte d'être être humain, la veille de cette guerre très probablement qui va éclater dans les heures ou les jours qui viennent. On a pensé que c'était pas mal de retrouver un homme qui toute sa vie a qu'est-ce qu'on a opposé aux armes, sinon notre réflexion, sinon notre goût de la vie et de la vérité. Et c'est ce dont Marcel Mathieu fait preuve, et c'est ce qu'on va entendre un peu en consolation jusqu'à 18h sur Inter, là-bas sur 18.
Je m'appelle Marcel, j'ai 90 ans. 1931, j'ai 20 ans. Jeune instituteur, je pars faire mon service militaire en Algérie. Je suis enchanté. Je vais montrer à ces gens le beau visage de la France des Lumières. C'est ma conception du patriotisme. On m'engage dans les Zouaves, dans la caserne à côté des tirailleurs sénégalais. Les Noirs étaient tous sénégalais. Je me hâte de les connaître. Je me fais un ami, Hierro Malik, sénégalais de Ouagadougou. Il n'a pas le visage hilar du Noir de Yabon Balanga. Il est toujours un peu triste, ayant laissé sa femme et ses enfants à Ouagadougou. Il a deux ou trois copains, moins sérieux. Je les emmène au cinéma voir un film sur l'Afrique. Je remarque les regards désapprobateurs des Français qu'on n'appelait pas encore à cette époque les pieds noirs. Je les revois, ces regards, très nettement. Je me sens plus à l'aise avec les nègres et les bicots qu'avec certains de mes compatriotes. Mais il ne me vient pas à l'idée qu'ils puissent se gouverner à eux-mêmes. Ma générosité est paternaliste. Ce sont mes protégés. Mais je mettrai longtemps, beaucoup de temps, à comprendre.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Claire Otter. Là-bas, si j'y suis, les carnets intimes de Marcel M.
Flight number 2, arriving from New York.
C'est à partir de 70 ans que j'ai connu l'amour. Le vrai amour. On était fou la vie. Il s'appelait Yvonne.
Thank you. enfants innocents. Ça fait San Francis. Et ça m'émeut encore. C'est bien Francis. J'admirais les brigades internationales, ces gens qui sacrifient leur vie pour la liberté. C'était beau, hein. C'était plus courageux que moi. Je me cramponne toujours à l'espérance. Et puis, je dois dire que les gens sont très gentils avec moi. Et je me demande pourquoi. J'avais beaucoup plus peur de la mort à 50 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'en ai plus peur. Et c'est bizarre.
Qu'est devenu depuis la Madelon jolie des années 16? A-t-elle toujours les yeux étonnés d'être si bleue, la taille à l'aise? A-t-elle toujours ce geste de la main un peu leste pour dire sois sage? À ses amis d'un jour, amoureux des contours de son corsage? Dans quel village est-elle, loin de sa clientèle, dans quel conterie? Sous le ciel de quelle ville vit-elle encore agile ou retirée? Est-elle passée près de moi dans la rue quelquefois, mon cœur en tremble? A-t-elle dans sa famille, qui sait, une jolie fille qui lui ressemble? Qu'est devenue depuis la Madelon jolie des années 16? A-t-elle toujours les yeux étonnés d'être si bleus, la taille à l'aise? A-t-elle toujours ce geste de la main un peu leste pour dire « sois sage » à ses amis d'un jour, amoureux des contours de son corsage? Ils sont restés fidèles, comme au temps auprès d'elle, ils venaient boire à la santé de la France, à l'oubli de la souffrance, à la victoire. Vision de ces images qui furent celles d'un bel âge et qui s'effacent. Le feu sur un toit de chaume et l'empereur Guillaume comme le temps passé.
Il y a ceux dont la vie se vit sans eux, il y a ceux qui vivent leur vie sans la comprendre, il y a ceux dont la vie s'éclaire par la fin, il y a les légers, il y a les lourds, mais qui songent vraiment à son parcours. Il y a ceux qui sont toujours sur la photo, les marioles, les malins, ceux qui les roulent à la radio, et puis il y a ceux qui, tel Fabrice à Waterloo, passent à côté. Cela ressemble un peu à Monsieur Marcel. On comprend pas toujours tout sur le coup, mais après, à retardement, comme les bombes du même nom qui exploseront des années plus tard, une nuit, dans le noir, on se réveille, quelque chose s'est passé, la vie tout simplement. Comme cette heure qui va passer, comme une vie qui est presque passée, qui serait un déjeuner de soleil, un déjeuner sur l'herbe, né en l'air, à la Fred Astaire. Monsieur Marcel, M, on va l'appeler, raconte sa vie, il a 92 ans, il a écrit ses carnets, à chaque instant de sa vie, il a noté tout ça, il a pensé tout ça, au moment
qui n'était pas forcément sur le coup, mais plus tard, à reculons, tout d'un coup, il s'est rendu compte de ce qu'il avait vécu. Mais au moins a-t-il pensé sa vie, un jour ou l'autre, pensé sa vie, pensé son époque. Et puis, Monsieur Marcel a été un amoureux des femmes, comme il se doit, comme on doit, et de la vie aussi. Et il a réfléchi à tout ça, et c'est tout ça qu'il nous livre, avec une désinvolture apparente, une légèreté qui dure une heure.
Alors, quel jour ? 21 novembre 2001.
Sur le chemin, je rencontre la veuve de mon copain, disparue il y a quelques temps. Elle m'embrasse chaudement. Elle est assez aguichante, cette petite bonne femme redouillarde. Et quand elle m'embrasse et me serre d'un peu près, j'éprouve une sensation que je dois bien considérer comme érotique. Elle se plaint de sa solitude. J'irai vous voir, oui, avec plaisir. Je me doute de ce qui pourrait se passer si nous étions seuls un après-midi. Je repousse ma tentation. À 91 ans bientôt, je ne vais pas multiplier les maîtresses, mais les appâts de la veuve me troublent.
Marcel, ça c'est... Mais vous êtes vraiment un être frivole. Hein?
Inconstant. Inconstant et volage. Et je ne m'améliore pas en vieillissant. Je suis né à Amiens, le 10 décembre 1910. Mon père était chef de musique militaire. J'étais là le jour du mariage de ma mère. Ça m'étonnait un peu, hein. Ça fait une douzaine d'années. Et bien, c'était en avance sur leur temps, hein. Parce qu'ils vivaient, c'était rare à ce moment-là. Très rare, parce que ma mère était d'une origine très humble. C'était, vous savez, une de ces gosses de la campagne qu'on envoyait bonne à tout faire chez des bourgeois. Alors, je ne sais pas comment ils s'étaient rencontrés, enfin, de leurs amours, j'étais né. Alors, ils se sont mariés en 1912. J'avais 2 ans. Et ensuite, nous sommes allés à Issoula, où j'ai passé toute mon enfance, et la guerre 14, jusqu'en 1919.
Vous avez des souvenirs de cette guerre de 14?
Oui, oui. Et je n'ai malheureusement que de bons souvenirs. Parce que j'étais enfant de 4 ans à 8 ans. Alors, il y avait à Issoula un grand camp militaire. Et dans ce camp militaire, sont arrivés les prisonniers allemands, qu'on appelait Bosch tout le temps. On ne connaissait que le nom de Bosch. Et puis ensuite, des Russes, parce que le tsar nous envoyait des soldats russes. On lui envoyait 100 fusils, il nous envoyait 1000 bons hommes. Alors, comme il n'y avait pas assez de fusils et 3 d'hommes, nous faisions un échange. 100 fusils, 1000 bons hommes. Ensuite, il y a eu, je ne sais pas, des gens de couleur. À ce moment-là, les Noirs étaient tous des Sénégalais. Des Sénégalais. C'était formidable. Vous comprenez, vous voyez, un enfant qui vit à côté d'un camp comme ça. Je ne me rendais pas compte de la mort des gens.
Mais votre père, il n'a pas fait la guerre de 14?
Si. Mais mon père était chef de musique, hein. C'est-à-dire chef des brancardiers. Alors, il était tout de même protégé. Vous comprenez? Mon père n'a jamais été vraiment dans les tranchées. Une chose me surprend quand même, c'est que mon père est revenu en permission au cours de la guerre, et lui, qui était officier, qui était un peu éloigné du front, il avait des poux. Ces vêtements, vous vous rendez compte comment devaient être les autres, hein. Ça m'avait frappé, ça.
Il écrivait à sa femme, j'imaginais.
Oui, oui.
Et dans ses lettres, il racontait
non,
pas l'horreur de
non,
la guerre.
Non, et pour moi, je lui écrivais aussi. Et puis j'en ai encore des lettres où je disais, « Oh, papa, vivement que je sois grand pour aller me battre avec toi contre les Boches. » J'écrivais ça, j'avais 8 ans. Voilà qu'on était élevé pendant la guerre 14. On était élevé pendant la haine du Bosch.
Oui, c'était le patriotisme.
Oui, c'était le patriotisme. On était patriote.
Mais ça s'est quand même effondré à la fin de la guerre, non?
Non.
Donc cette conscience de la guerre de 14, de cette horreur, de cette boucherie, elle est venue bien plus tard, au fond.
Elle est venue plus tard. Maintenant, je suis révolté par cette guerre. Révolté. Mais plus je vieillis, plus l'horreur de l'imbécilité de cette guerre 14 me met en colère.
Que nous attendons sans trêve. soudain, dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu, la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Grand, sur le plateau, on se fait trouer la peau. On est tous condamnés, on est les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les confions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau.
J'avais vécu la plus ignoble des guerres comme une période glorieuse, sans en ressentir les souffrances inouïes vécues par les poilus. J'avais entendu chanter le Madelon, chanson gaie, légère, qui montrait la bonne vie du combattant. Ah, que la guerre était jolie, dans la guinguette où le Madelon versait à boire. La Line chantait la Malchiche, la danse nouvelle, son rythme trépidant qui rendait les filles folles. C'est la danse nouvelle, mesdemoiselles, c'est la Malchiche. Bon, je ne vais qu'une même pas recommencer, autant de Malchiche. Je ne peux pas m'empêcher d'écrire. Et puis en même temps, ça, je revois, je revis.
Parce qu'à 92 ans, finalement, on est un survivant, non?
Oui, oui.
C'est un peu dur de dire ça, mais...
Oui, oui, c'est vrai, j'ai un survivant. Et j'ai beaucoup moins de la veine. C'est à partir de 70 ans que j'ai connu l'amour. Le vrai amour. On était fou l'un de l'autre. Elle s'appelait Yvonne. Ouais. Ça a été magnifique.
Fulgurant.
Oh, magnifique.
Vous avez découvert la masse 70 ans.
C'est vrai ? J'ai découvert l'amour, je ne sais pas ce que c'était avant. Parce que là, j'étais... Ça m'est arrivé qu'une fois dans ma vie. Enfin, je suis resté toujours très amateur des dames.
Voilà, voilà, il parle comme ça. Monsieur Marcel, et il nous a ouvert ses carnets. C'est un auditeur, 92 ans, et voilà. Et à qui étaient destinés ses carnets? À lui-même, il écrit merveilleusement bien, c'est précis, c'est un trésor, comme ça. Et on se demande quand même, on se dit, mais dans ce pays, il y a d'autres Marcel, il y a de futurs Marcel. Et c'est toute une richesse extraordinaire qui nous console quand même. Et puis voilà, on se dit les uns et les autres, là, bah, ça nous laisse du temps, hein. Ça, le temps s'allonge quand on écoute Marcel. Et puis il s'épaissit, il prend de la densité, il prend de la sensualité, il prend ce goût du libertinage et de l'amour, bien sûr, qui fait les hommes vraiment révoltés. Les hommes vraiment révoltés sont nécessairement des amoureux. Et cette nécessité-là, eh ben, elle pourrait presque résumer la vie de Marcel telle qu'il l'a racontée à Clairotère.
Comment est-ce que vous étiez, vous, jeune homme ?
J'étais un jeune homme très naïf, très candide, très respectueux des femmes, des filles. Les filles étaient pour moi des êtres à part.
Mais enfin, vous n'êtes pas resté vierge jusqu'au mariage.
Pardon ?
Vous n'êtes pas resté vierge jusqu'au mariage, quand même.
Non, mais j'ai raconté ça 36 fois. J'avais 17 ans. Alors on était une bande de jeunes gens pendant les vacances. On se réunissait chez une dame.
Chez une dame ?
Une dame mariée. Et alors cette dame me dit un jour, « Mais il faut revenir tout seul !»
Elle avait quel âge, cette dame ?
Elle avait une quarantaine d'années.
Mm-hmm. Une vieille, quoi.
Oh, oui. Elle est sortie de sa salle de bain avec une robe de chambre. Elle m'a dit, « Aime-moi, mon chéri !»
C'est le blé en herbe, ça ?
Oui, c'est le blé en herbe.
Vous devenez instituteur, vous avez quel âge quand vous êtes instituteur ?
18 ans.
18 ans ?
Oui, j'avais pas encore 19 ans. Mais j'étais tellement heureux d'être instituteur de campagne.
Elle était institutrice aussi ?
Aussi. Alors, il fallait se marier. On n'aurait jamais... Ça aurait été la honte, ouais. L'abomination.
Ouais, ouais. Surtout pour un enseignant.
De vivre sans être marié, ouais, avec l'institutrice. C'est
quasi impossible, j'imagine.
Non, mais non.
Mais là, en tant qu'instituteur comme ça, dans une toute petite commune, vous êtes un notable.
C'est le roi, le dieu. J'étais dieu.
Vous auriez pu devenir un homme politique.
Oui, mais j'aurais eu horreur de ça.
Alors, cette petite école, vous avez combien d'élèves, là ?
Eh bien, j'en avais 35 dans la mienne. Imaginez-vous, 35 de 4 à 14 ans. Il y avait une grande différence, voyez-vous, dans les fermes. Les fermiers, ils ne fichaient rien, hein. Ils avaient des domestiques agricoles très mal payés et très malheureux. Hein. Il y avait des gosses d'assistance aussi. Mmh. Je vois un gosse qui arrive, il n'était pas allé à la veille à l'école. Je lui dis, pourquoi tu n'étais pas là hier ? Eh bien, on l'habillait chez ma tante. On l'habillait chez ta tante ? Qu'est-ce qu'on faisait ? Pourquoi t'habillais ? Ben, on tuait le cochon. Habiller, ça veut dire tout le cochon.
Ah bon ?
Oui. Et on en joue. J'ai même vu arriver des enfants qui n'étaient pas sortis de leur ferme. Ils venaient dans le bourg, comme on disait, dans l'agglomération, pour la première fois de leur vie. Mais ouais, j'étais gentil avec eux, mais enfin, je donnais une claque facilement. Mmh. Hein, à un gosse moral. Mais pas à des gosses qui avaient des difficultés, à des intelligents. Qui rigolait ou qui n'écoutait pas. Comment ça écoute pas, bon, hein. Aujourd'hui, il ne le ferait plus. Hein.
Ouais.
Je vous dis, je me conduisais comme l'instituteur de la Troisième République.
Salut, salut, brave soldat du 17e.
Salut, chef 536.
Ah oui. 36, ça a été votre moment de gloire.
L'été 36, c'était la plus belle partie de ma vie. On était fous de joie. Les premiers congés, les gens qui n'avaient jamais sorti. C'était beau, hein. Alors les bourgeois disaient, on va les payer à rien foutre. On va les payer à rien faire. Puis alors quand ils ont vu arriver sur les plages des ouvriers, sur les plages qui étaient réservées aux gens.
La haute.
Oui, c'était aux deux.
Vous avez vu ça, vous? Vous êtes allé sur les plages?
Ah oui, moi j'ai vu ça. Enfin, moi j'appartenais déjà à une plus aisée, quand même. Hein. J'étais pas...
Mais de cœur, vous étiez avec eux?
Ah oui, 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 à fond. À fond, à fond. Je croyais que c'était rien. On chantait ça en 36. Et ça m'émeut encore. C'était bien 36. On défilait dans la rue, on chantait l'International. La jeune garde, elle descend sur le pavé. Les soldats du 17e. Puis après, il y a eu la guerre d'Espagne. Voilà. Ça, c'est resté sur l'estomac. La guerre d'Espagne. Oh, ça, c'est terrible, hein. J'ai admiré les brigades internationales. Ces gens qui sacrifiaient leur vie, comme ça, pour la liberté. C'était beau, hein.
Ouais,
c'était plus courageux que moi. Ouais.
Profundamente agradecida de la expresión de solidaridad del pueblo francés para con el pueblo español. Que el pueblo francés no olvide que la lucha que en estos momentos sostiene el pueblo español es la lucha por la paz, es la lucha por la libertad, es la lucha por la democracia.
Je suis trop sensible. C'est vrai. Je devrais être plus raisonnable.
Allez. Évidemment, il ne croit pas ce qu'il dit. Ça, c'est le genre de phrase à laquelle il ne croit pas un seul instant. Ce qui est vrai, c'est qu'il est sensible, trop sensible. Oui, en tous les cas, très vivant, très fin, très malin aussi. Très séducteur avec cette vie qu'il a aimée. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et ça arrive, la preuve, on est là avec cet homme de 92 ans qui ouvre sa maison, qui ouvre son carnet, les pages de sa vie, et puis sa mémoire, et puis les clichés, aussi de notre histoire commune de ce siècle passé qui se mêle à ses souvenirs à lui. Et très souvent, entre les clichés qui marquent les grands moments de notre histoire, là on évoque la guerre d'Espagne rapidement évidemment, et sa vie à lui, son parcours à lui, eh ben il fait la différence. Il sait très bien qu'il n'était pas toujours sur la photo, même assez rarement sur la photo, comme celui qui dit j'ai manqué ma vie, mais ça n'empêche pas de penser son époque, d'aimer, d'avoir aimé son époque, et puis d'avoir tout aimé, semble-t-il, dans la vie. C'est une élégance extraordinaire de nous apparaître comme ça, sans
trop de remords, sans trop de regrets, et s'accrocher, comme il le dit, à l'espérance. Et puis s'étonner après ça qu'on vous aime. C'est ce qu'il dit, monsieur Marcel. Les gens sont gentils avec moi, je me demande pourquoi.
Vous vous mariez, mais j'ai l'impression que c'est sans enthousiasme.
En vérité, oui. Pour moi, c'était comme une espèce de devoir.
Déjà, dès le départ.
Oui, dès le départ. Et toute ma vie.
Toute votre vie.
Oui. C'est mal de dire ça. Je dis la vérité.
Vous êtes resté marié combien de temps ?
À 70 ans. 70 ans. Ma femme est morte il y a 2 ans. Mais toujours attachée à moi.
Parce qu'à l'époque, on ne divorçait pas.
Mais non, on ne divorçait pas. C'est pour moi, c'était pas possible de divorcer. Pendant la guerre, à Reims, j'ai connu une petite jeune fille. J'étais gestionnaire dans un hôpital. Un gestionnaire, c'était un gars, c'était un lieutenant.
Là, vous preniez pas la guerre très au sérieux à ce moment-là.
Oui, je pensais plus. Et la vraie guerre a commencé le 10 mai, j'ai rien vu. J'ai rien vu.
De 39 à 45, vous n'avez rien vu.
Oui, rien du tout. Ça peut paraître étonnant, hein. Ce 23 novembre 1939, nous étions allés faire des courses à Reims. Je me trouve devant une jeune beauté, radieuse, un éblouissement. Et c'est ainsi que naquit le grand amour de ma vie, et que je célèbre encore par une azalée adressée à Yvonne.
Ah, c'est Yvonne que vous avez rencontrée dans ces circonstances.
Ouais. Oh. Ce jour-là. On s'est revus 40 ans après.
Vous sortez une photo de votre portefeuille. Ah oui, elle est ravissante.
En 1980, je savais qu'elle tenait un salon de coiffure. Je vois le numéro sur le puis j'appelle. Elle me dit, c'est toi ? 40 ans après. Alors on s'est revus. Et alors là, c'était le grand amour.
Le coup de foudre à nouveau.
L'amour fou.
C'est vrai.
L'amour fou. J'étais fou. Nous dansions à l'Eldorado sur le boulevard Magenta, près de la gare de l'Est. La lumière de la salle était tamisée, un gros globe à facettes tournait au plafond. Nous nous asseyions sur une banquette dans l'ombre. Nous étions les enfants qui s'aiment. Non, ce n'était pas ridicule, j'avais 70 ans là. Nous n'avions plus d'âge, nous serrions l'un contre l'autre, les mains enlacées. Nos regards se caressaient, se parlaient d'amour. Nos lèvres se prenaient dans l'ombre. Les piliers de verre renvoyaient l'image de nos corps enlacés. Étourdis, nous sortions sur le boulevard. L'hôtel n'était pas loin. Nous pressions le pas dans la hâte de nous aimer, dans l'ivresse du dernier soir.
Alors en 1947, vous avez rencontré Lisette, et puis ça a été un grand amour platonique.
Platonique, mais des esprits. L'amour des esprits.
Ouais. C'est un véritable roman, votre journal.
Oui, alors elle dit, oh, tu sais, on a toujours été très bien. Alors je dis, je vous embrassais. Tu ne te défendis pas. Après la classe, je passais en vélo dans la nuit d'hiver pour passer quelques minutes avec toi, 11 kilomètres. Nous nous embrassions, nous rions, et il me semblait bien, quoi que tu t'en défendes, qu'un soir tu défies ma ceinture. Oh ! Le manque de temps, l'environnement peu propice, nous évitèrent d'être amants, et nous restâmes amoureux, regrettant de n'avoir pu nous marier. Thank you.
chansons qui ont compté dans votre vie.
Oui, par exemple ça, Le Pont Mirabeau.
Vous pouvez me faire écouter?
Oui. Mais pas seulement pour la danse. C'est beau, hein?
C'est beau. C'était pourquoi? C'était pour sentir le corps d'une femme.
Oui. Ses yeux. Les yeux des femmes plaisent beaucoup.
Tandis que sous le pont,
je suis trop sensible.
Nos bras passent.
C'est vrai?
Des éternels regards longs de silence.
Je devrais être plus raisonnable.
Vienne la nuit. Allez. Sonne l'heure, les jours s'en vont.
Vous seriez mort si vous étiez raisonnable.
Peut-être.
L'amour s'en va comme cette eau courante. L'amour s'en va comme la vie est lente. Et comme l'espérance est violente, vienne la nuit. Sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure.
Soixante dix ans de mariage.
Oui.
Et puis depuis, vous vous brûlez le torchon par les deux bouts.
Voyez-vous, quand ma femme est décédée à 90 ans, facilement, j'ai pleuré. Hein? Oui. Mais en même temps, ça a été une libération. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui. Comment expliquer le plaisir intense que j'ai ressenti ce matin à l'appel de Lisette? Je la croyais déçue de mes relations avec Dominique et Gabi, la plus sincèrement amoureuse, la seule qui, depuis 1946, provoque mon désir charnel le plus violent. Reste Yvonne, la nostalgie de l'amour fou, un feu qui couve toujours sous la cendre, un souvenir merveilleux, que le temps n'efface pas, mais embellit plutôt. J'aime beaucoup les femmes. Non, mais je pourrais m'en passer. Je pourrais très bien vivre chaste, sans être tourmenté par des désirs quelconques.
Ah oui?
Ah oui, ça vraiment. Je pourrais très bien vivre seul, et puis sans femme, seul heureux. C'est vrai, non, c'est vrai.
Vous êtes en train de me dire que ce sont les femmes qui viennent à vous?
J'ose pas le dire. Non, je sens bien quand ça se sent, quand on peut.
Elle frappe discrètement à la porte.
Voilà.
Sonne l'heure, les jours s'en vont.
Qu'est-ce que vous faites, Marcel? Vous êtes en train d'écrire sur un petit bout de papier une déclaration? C'est pas sérieux du tout, hein? C'est pour moi? Qu'est-ce qu'il est en train d'écrire? Vous avez de beaux yeux? C'est pas sérieux, Marcel, hein? Vous avez de beaux yeux à 40 ans? J'aurais été amoureux de vous? Oh? Qu'est-ce que vous avez écrit après?
Rien. Bonjour, Maria.
Bonjour, Marcel.
J'aurais été amoureux de vous?
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a écrit après?
Au sens.
Au deux sens. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Ni ton passé, ni le bien-aimé.
Aujourd'hui, j'ai 92 ans. Ben oui, je sais, vous avez 92 ans. Heureusement, j'ai 92 ans. Ah là là, mais vous me faites du genou sous la table en plus, hein. Non? C'est moi. Vous êtes incorrigible, hein?
Oui.
Ah oui, un amoureux incorrigible.
Je n'ai pas écouté.
Oh si, je l'ai écouté.
Nous qui désirons sans fin, voilà. Voilà ce qu'on pourrait dire de Marcel, celui qui désire sans fin, mais qui nous ressemble beaucoup parce que nous désirons sans fin que nous en ayons les moyens ou pas. Vous entendiez, les jours s'en vont, je demeure, voilà, il demeure, les jours s'en vont, mais il est toujours là, Marcel, avec ses 92 balais, comme disait mon papa, il est comme les poireaux, c'est-à-dire qu'il a le poil blanc et la queue verte, semble-t-il, d'après ce qu'il nous raconte, une rencontre heureuse, une heure heureuse, que cette heure passée avec cet auditeur qui avait laissé un message. C'est pas le seul d'ailleurs qu'il a laissé, c'est toujours pertinent, et ce qui nous plaît toujours, c'est qu'il, encore une fois, c'est qu'il dit, ben, j'étais pas là, mais je sais que ça s'est passé, tel événement de l'histoire. Ça change quand même de tous ceux qui vous racontent ils étaient sur la photo. Ça me rappelle le bouquin merveilleux de Topor qui s'appelle Les Mémoires d'un vieux con. Et le vieux con, c'est ce personnage qui est absolument partout, qui a connu tout le monde et qui était aussi bien avec André Breton qu'avec Trotsky, qu'avec avec Freud, comme avec De Gaulle. Et c'était un personnage très comique. Et c'est un petit peu ça qu'on entend à longueur de micro, à longueur de radio, à longueur de médias. Et là, non. C'est un homme qui avait un pas de côté, mais c'était un pas de danse, et c'était un pas d'amour, et c'était un pas de réflexion, et c'était aussi évidemment un pas de passion. Mais à la fin de sa vie, il préfère s'en aller légèrement, un peu en bulle de savon.
Au fond, l'amour, c'est quelque chose qu'on prend peut-être trop au sérieux, non?
C'est difficile d'avoir un jugement sur l'amour. C'est difficile. Et puis, quelquefois, on aime, on dit qu'on aime. Est-ce que c'est l'être lui-même qu'on aime ou l'amour lui-même? Hein? Souvent. Même avec Yvonne, je me pose. Parce que c'était une... Je l'aimais passionnément, mais il n'avait pas mes idées. Il n'avait pas mes goûts. On n'aurait pas pu vivre si on avait vécu conjugalement. Ça aurait été une catastrophe.
On en revient toujours à cette définition de l'amour, quoi. C'est un peu pauvre comme terme.
Oui, oui. Oui, parce qu'il y a des nuances tellement extraordinaires.
Il faudrait inventer d'autres mots.
Oui. Oui.
Un vocabulaire amoureux.
Oui. Oui.
Je crois que vous seriez tout à fait désigné pour faire ça.
Oui. J'aime, oui, toujours. Puis j'aime être aimé. J'aime quand même. Oui, c'est le contraire, après, c'est ce qu'on dit.
C'est-à-dire qu'on a tous besoin d'y croire.
Il y a beaucoup de vieilles gens qui renoncent à l'amour. Ils disent, oh, ben maintenant, c'est fini. À notre âge, c'est terminé. Moi, j'ai jamais cru ça. Je me cramponne toujours à l'espérance. Et puis, je dois dire que les gens sont très gentils avec moi. Et je me demande pourquoi. Au fond, on aime que les gens vous aiment. Hein? On est sensible. On aime bien être aimé, dans le fond. J'avais beaucoup plus peur de la mort à 50 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'en ai plus peur. Oui, c'est bizarre. Avant, tout réside dans la sensation. Alors quand ces sensations disparaissent, ben, tout disparaît aussi. Hein? Je vois ça comme ça. Hein? Je crois que je vais m'endormir en quelques temps.
Merci, merci Monsieur Marcel. C'était un reportage de Claire Otter. À la technique aujourd'hui, Henri Bérec et Romain Luquiens, assistante Anne de Chafféry. Le numéro du répondeur de la Bassie J'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. Et c'est Christophe Humbert qui est au bout du répondeur. C'est votre répondeur, faut-il le rappeler. Assistant de réalisation Koyen Nguyen, et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Je vous rappelle aussi le mail de la Bassie J'y suis, daniel.mermet@radiofrance.com. Et puis, vous pouvez toujours nous écrire, hein, c'est agréable de recevoir des vraies lettres écrites vraiment à la main sur du vrai papier. Et ça, c'est là-bas si j'y suis, Daniel Mermet, Radio France ou France Inter, 116 avenue du président Kennedy, 75 016 Paris. Réclame.